Bienvenue à cette exploration des sources aujourd'hui. On se penche sur le monde universitaire à Paris. On connaît Paris pour la Tour Eiffel, bien sûr, mais c'est aussi une concentration étudiante assez phénoménale. On parle de plus de 322 000 personnes. C'est une des plus denses en France et même en Europe.
Absolument. Puis les documents qu'on a devant nous, là, ils nous donnent vraiment une vue d'ensemble de ce réseau qui est quand même assez complexe. L'objectif, c'est un peu de décortiquer comment ça s'organise aujourd'hui, que ce soit vraiment au cœur de Paris ou dans l'agglomération autour. Puis aussi de voir comment tout ça a évolué, surtout depuis une date assez marquante, 1970.
D'accord. Fait que le plan, si je comprends bien, c'est on regarde les établissements principaux qu'on trouve maintenant, publics, privés, puis après, on fait un petit saut dans le temps pour voir d'où ça vient, cette structure un peu particulière.
C'est exactement ça.
Parfait. Alors, allons-y. Plongeons dans ce réseau universitaire parisien. Commençons par Paris Intramuros, donc vraiment dans les limites de la ville historique. Là, on trouve des noms très connus, mais surtout, comme tu disais, des regroupements récents qui sont devenus très gros, très puissants. Je pense à Sorbonne Université, par exemple.
Oui, Sorbonne Université, qui est née de la fusion de Paris 4 et Paris 6, c'est un exemple parfait. Il y a aussi l'Université Paris-Cité, elle, issue de Paris 5 et Paris 7.
Et il y a aussi Paris Sciences et Lettres, PSL. Ça, c'est un cas un peu différent, non?
Oui, PSL, c'est fascinant, parce que ça regroupe pas juste une université au sens classique. C'est un ensemble, tu sais, d'institutions hyper prestigieuses, des grandes écoles, des instituts de recherche, et aussi l'Université Paris-Dauphine, qui était l'ancienne Paris 9. Ce qui est frappant là-dedans, c'est que beaucoup de ces grandes universités actuelles, elles tirent leur origine de l'ancienne Université de Paris. Celle qui a été, éclatée en 1970.
Ah, OK.
Puis les fusions très récentes, là, comme Sorbonne Université en 2018 ou Paris Cité en 2019, ça montre vraiment une tendance forte. On essaie de recréer des grands ensembles. Souvent, pour être plus visible à l'international, pour regrouper les forces en recherche.
Donc, on est passé d'une espèce de fragmentation à une reconsolidation, si on veut.
C'est pas mal ça, l'idée, exactement. Il faut pas oublier non plus, à côté de ces géants publics, il y a aussi quelques acteurs privés qui sont bien installés. L'Institut catholique de Paris, par exemple, l'American University of Paris, puis même un campus de l'Université de Londres. Ça ajoute à la diversité, quand même.
Intéressant. Mais bon, le monde universitaire parisien, ça déborde largement du périphérique, hein? Qu'est-ce qu'on trouve dans l'agglomération? Les sources parlent aussi de gros pôles en banlieue.
Tout à fait. Plusieurs universités qui sont nées après 70 ou même plus tard dans les années 90 sont devenues des acteurs majeurs aujourd'hui. On peut penser à Paris-Nanterre, qui était Paris-X, ou Paris 8 à Vincennes-Saint-Denis. Et surtout, on voit la même tendance à la consolidation qu'à Paris même. Le cas le plus emblématique, je pense, c'est l'Université Paris-Saclay, au sud. Elle a carrément intégré Paris-Sud, l'ancienne Paris 11, pour former un pôle scientifique et technologique immense.
Paris-Saclay, oui, ça, c'est un projet d'une ampleur assez considérable, non?
Ah oui, c'est un projet d'envergure nationale puis même internationale. Le but, c'est vraiment de créer un écosystème d'innovation de premier plan. Puis il y a d'autres créations récentes qui vont dans le même sens. L'Université Gustave Eiffel à l'Est, qui vient de Paris-Est-Marne-la-Vallée, créée en 2020, ou CI Cergy Paris Université au Nord-Ouest la même année.
OK.
Ça confirme la dynamique, là. Créer des universités plus grandes, plus visibles, souvent multidisciplinaires. Ça s'étend vraiment à toute la région Île-de-France.
Pour bien saisir toute cette évolution, il faut qu'on revienne à ce moment clé dont tu parlais, 1970. Avant ça, si j'ai bien compris, il y avait une seule grande université de Paris.
C'est ça. Historiquement, oui. Bon, il y a eu l'université médiévale qui a été supprimée à la Révolution française, mais ensuite, une nouvelle université de Paris a été recréée en 1896. Et c'est celle-là qui a existé jusqu'en 1970.
Et c'est elle qui a été démantelée.
Exactement. C'est la loi Faure qui a été adoptée juste après les événements de mai 68. L'idée, c'était de moderniser, de décentraliser un peu, puis de donner plus d'autonomie aux établissements. La conséquence directe, ça a été l'éclatement de cette grosse université de Paris en 13 universités indépendantes, numérotées de 1 à 13.
13 d'un coup? Wow! Ça a dû être une transformation majeure, là. Et ces 13-là, ce sont les ancêtres de beaucoup d'établissements qu'on connaît aujourd'hui.
Précisément, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris 2, Panthéon-Assas, Paris 3, Sorbonne-Nouvelle, jusqu'à Paris 13, qui est devenu Sorbonne-Paris-Nord. Beaucoup viennent directement de cette scission de 1970. Elles ont hérité des facultés, des disciplines de l'ancienne université unique. C'est vraiment la base du système actuel. Mais comme on l'a vu, ce système-là, il n'est pas resté figé, là.
Non, c'est clair, avec toutes les fusions récentes qu'on a mentionnées. Ouais. C'est un peu comme si l'histoire faisait un mouvement de volantier, non? D'abord, l'éclatement en plein morceau, puis après, on essaie de recoller les morceaux pour retrouver une taille critique.
C'est une très bonne image, oui. C'est pas mal ça. Depuis les années 2000, et surtout depuis 2010, la tendance s'est vraiment inversée. Des universités qui sont nées en 70 ont disparu en fusionnant avec d'autres. Paris 4 et 6 dans Sorbonne Université, V et 7 dans Paris Cité, 11 dans Paris Saclay. Cette consolidation, bien, elle est encouragée par les politiques publiques, c'est sûr, mais aussi par la compétition internationale pour attirer les chercheurs, les étudiants, puis aussi pour mutualiser les moyens, simplement.
OK. Donc, si on résume un peu ce qu'on tire des sources, on a une densité étudiante qui est énorme, un réseau universitaire très, très riche à Paris et autour, marqué par une sorte de Big Bang en 1970 qui a tout fragmenté, puis suivi plus récemment par une vague de regroupements pour créer des ensembles beaucoup plus costauds.
C'est ça, c'est exactement ça. Le portrait qui se dessine, c'est celui d'un pôle universitaire majeur, pas juste en France, mais en Europe, avec une histoire complexe, puis surtout une structure qui est en perpétuelle mutation. Ça n'arrête pas de bouger. Les créations très récentes de Sorbonne Université, Paris Cité, PSL, Paris-Saclay, Gustave Eiffel, CY, Cergy, ça montre bien que ce paysage est loin, loin d'être stabilisé.
Toute cette réorganisation constante, puis cette concentration qui est quand même unique en France, ça amène forcément à se poser des questions pour l'avenir, j'imagine.
Ben oui, en effet. Une réflexion qui découle assez naturellement de tout ça, c'est de se demander comment est-ce que cette concentration géographique exceptionnelle, combinée avec cette instabilité structurelle ou cette dynamique constante, ça dépend comment on voit ça, comment ça impacte réellement la recherche, la capacité d'innovation, mais aussi juste l'expérience vécue par les étudiants au quotidien. Tu sais, est-ce que c'est un avantage décisif par rapport à d'autres modèles universitaires, peut-être en région, qui sont plus stables? Ou est-ce que cette complexité, ben, ça aussi, c'est des avantages?
Ouais.
C'est une question qui reste ouverte puis qui est assez passionnante, je trouve.